Je ne sais pas pourquoi, mais je crois que je veux des enfants. Et en même temps, dans le monde qui est le nôtre, j'ai du mal à imaginer en concevoir un. En bref, je suis un peu perdu. Pourquoi choisir de créer une petite chose à laquelle je serai lié toute ma vie? Est-ce que ce serait un des meilleurs choix que je ferais? Ou l'un des plus contraignants? J'ai eu besoin d'en discuter avec d'autres. Vous écoutez un de ces récits, une histoire qui parle de créatures.
Pourrait m'allonger avec et faire un bébé.
Je n'appartiens à personne. Je suis libre.
Je vous propose dans cet épisode d'écouter Marine. Marine n'a pas d'enfant, du moins pas encore, car au moment où on a enregistré ensemble, elle était enceinte de presque 8 mois. Une autre subtilité, c'est que Marine n'est pas maman, mais qu'elle vit avec la petite fille de son compagnon. Pour toutes ces raisons, j'ai voulu savoir alors pourquoi Marine avait choisi de faire un enfant, quel rôle avait eu la fille de son compagnon et ce dernier dans son choix, et comment elle se projette en tant que femme féministe dans son futur rôle devant une société normée et pesante pour les mères. On s'est retrouvés chez elle, et ça a commencé comme ça. Salut Marine!
Salut.
Salut pour la deuxième fois, parce qu'on s'est vu la semaine dernière et les fichiers sont partis en vacances et ils ne sont pas revenus. Donc on le refait la semaine d'après maintenant. Ma première question, c'est pourquoi est-ce que tu as voulu l'enfant qui est en train de grandir dans ton ventre ?
Il y a eu plusieurs raisons à cela. J'ai 31 ans, donc il y avait l'une des premières raisons était l'âge. Pour être honnête, si j'en avais 20 aujourd'hui, je ne serais pas enceinte. Ensuite, je suis avec mon copain qui a actuellement une petite fille de 4 ans. Donc ça m'a permis de voir que j'étais capable de m'occuper d'un enfant en bas âge. Ce qui pour moi n'était pas une évidence, parce que je n'ai pas eu de bébé dans mon entourage depuis que je suis petite. Et je suis plus considérée comme pour mon entourage, en tout cas pour ma famille, comme la petite dernière, l'enfant, donc personne ne me voit forcément en tant que mère. Il y a aussi la partie où quand je m'imagine plus âgée, je me dis est-ce que je ne vais pas regretter de ne pas avoir un enfant? Parce qu'en fait, l'envie d'avoir un enfant n'a jamais été innée. Je n'ai pas forcément d'instinct maternel. Mais ça a été du coup ces différents facteurs qui ont fait que je suis arrivée à avoir envie d'un enfant avec mon conjoint actuel. Et donc je disais, quand je m'imaginais à, je ne sais pas, un peu plus âgée, à 50 ans, et je me disais, mais est-ce que j'ai peur de regretter de ne pas avoir eu d'enfant ? Et aussi, le dernier facteur, qui est un peu égoïste, je ne sais pas comment on peut le prendre, mais où quand je serai vieille, qui s'occupera de moi ? Ce dernier facteur qui a fait que, en effet, tous ces facteurs ont fait que, aujourd'hui, j'ai eu envie d'avoir un enfant avec mon conjoint actuel.
Est-ce que le fait d'avoir la fille de ton compagnon, ça a été quelque chose qui a pu entraîner un changement ou en tout cas entraîner un truc de « bon, j'ai expérimenté, j'y vais » ou ça n'a eu aucun lien pour toi dans ton souhait d'avoir un enfant ?
Si, ça a été un lien, ça a été presque le lien, le déclencheur le plus important. J'ai rencontré mon copain il y a 3 ans. Maintenant, avec sa fille qui avait à peine un an. Et au début, je ne savais pas quoi faire de cette petite fille. Clairement, je ne participais pas grand... Je ne faisais pas grand-chose avec cette petite fille parce que je ne savais pas faire et parce que j'avais dit à mon copain que je ne voulais pas être la babysitter. Et donc, il ne devait pas me forcer en quoi que ce soit dans les tâches, dans les choses à faire avec cette petite fille. Et puis surtout que je ne me sentais pas capable. En fait, pour moi, un enfant en bas âge... ça communique pas très bien, on peut pas vraiment échanger. Donc au début, c'était un peu de l'observation. Et au fur et à mesure, bah, il a bien fallu que je m'intègre dans ce foyer familial, dans ce binôme. Et ça s'est fait du coup petit à petit et plutôt naturellement. Et c'est vrai que bah, y a des moments qui n'étaient clairement pas faciles. Et il y a eu des moments qui étaient beaucoup plus faciles et beaucoup plus innés. Et c'est là où, en effet, en prenant un peu de recul, je me suis rendu compte que bah, finalement, ce n'était pas si compliqué. En tout cas, c'était possible. Que j'en étais capable et que bah, c'était agréable et qu'on passait des super moments tous les trois en famille. Et du coup, ces éléments-là m'ont permis de me dire « Mais pourquoi on ne rajouterait pas une quatrième personne dans ce foyer familial ?»
Depuis tout à l'heure, tu parles d'être capable. J'ai l'impression que c'est un truc qui, en tout cas chez toi, est une dimension qui a pu être un frein et que maintenant tu transformes en « je le suis capable ». Est-ce que tu veux bien m'en dire un peu plus ?
Ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu rapidement, en effet, moi je suis un peu la petite dernière de la famille. J'ai eu la chance de ne pas avoir eu trop de pression auprès de ma famille sur bah, quand est-ce que tu fais un enfant, alors c'est pour quand le bébé ? Pas du tout. Moi on m'imaginait, et on m'imagine toujours, pour certaines personnes, comme la petite dernière, la fille qui a toujours un esprit enfantin, voilà, qui a du mal avec les responsabilités, ce qui est totalement faux, mais en tout cas par rapport à ma sœur aînée, qui est beaucoup plus mature, on va dire, qui a été une personne responsable plus rapidement que moi. En effet, comme auprès des autres, on ne me disait pas que je pourrais être une bonne mère, bah moi je m'imagine pas être une bonne mère et je ne m'imaginais pas être mère tout court. On me disait pas que j'étais une mauvaise mère, on me disait juste rien à propos de la maternité, de la parentalité. En fait, il n'y avait aucun lien entre moi et la maternité. Et du coup, au fur et à mesure, bah comme avec les différents facteurs que j'ai dit tout à l'heure, j'ai voulu en effet avoir un enfant, tomber enceinte, mais c'était la première chose en disant mais est-ce que je suis capable? Est-ce que mon corps est capable je suis tombée enceinte en fait au bout de 2 mois. Rien que ça pour moi c'était mais comment c'est possible que mon corps soit capable de tomber enceinte au bout de 2 mois? Pour moi c'est...
Tu doutais? Tu pensais que ça allait prendre peut-être plus de temps?
Pour moi c'était une certitude que ça, la moyenne en France je crois que c'est entre 9 mois et 1 an pour tomber enceinte. Donc moi je m'étais dit moi ça va mettre 1 an et demi. Aucune pression.
Tu t'es déjà dit, oui. Ce sera la fourchette haute.
Oui, tout à fait.
Et finalement ?
Et finalement, ça a mis 2 mois. Parce que bah, dans ma famille, j'ai des personnes qui ont mis du temps à tomber enceinte. Et que j'ai un esprit un peu pessimiste et que j'ai tendance à voir le pire avant de voir voilà, le côté positif. Et ensuite, suite à ça, je me suis dit, ah oui, mais je suis capable. Mais forcément, par contre, ça ne va pas fonctionner. Je vais avoir une fausse couche dans les 3 mois. C'est certain. J'en étais sûre.
Est-ce que c'était une manière de te protéger aussi, de si jamais il y avait un coup dur à assumer ?
Oui, aussi. Et en me disant, bah, pourquoi moi ça fonctionnerait très bien, alors que mes proches, ma sœur, ont eu des difficultés, ont eu des fausses couches. On connaît tous et toutes dans notre entourage quelqu'un qui a eu une fausse couche, qui ont eu des difficultés à avoir des enfants. Pourquoi moi, ça serait si une évidence, alors que même chose, j'ai jamais eu trop confiance en mon corps. J'ai pas de complexe sur mon corps. Mais par exemple, au niveau du sport, j'ai jamais été très sportive. J'ai toujours été très moyenne. Et donc, j'ai jamais eu confiance en mon corps. Et là, me dire que, ah oui, mon corps est capable de porter un enfant et en plus de passer les 3 mois et de pas faire de fausse couche, comment c'est possible ? Rien que ça, pour moi, c'était assez incroyable que mon corps était capable de faire ça, en fait.
On dit souvent que les premiers mois peuvent être compliqués pour le corps, nausées, tout le bidule, fatigue, nanana. Comment ça s'est passé pour toi ?
Même chose, je m'attendais au pire, en me disant je vais avoir des nausées, je vais être malade, et là, même chose, rien.
Surtout que toi, j'ai déjà l'info, parce qu'on en a parlé la semaine dernière, mais t'es métophobe.
Voilà,
donc,
je suis métophobe.
Donc les nausées, les vomissements, c'est pas ta cam.
Ouais, et c'était aussi c'était un des facteurs qui me donnait pas très envie de tomber enceinte parce que je ne m'imaginais pas passer 3 mois ou plus en ayant la nausée et en vomissant. Pour moi, c'était impossible. Et en effet, je n'ai pas eu de nausées, je n'ai pas eu de vomissements pendant ces 3 mois. J'ai eu, finalement eu très peu de symptômes. Il y a d'ailleurs un sage-femme qui m'a dit que c'était justement peut-être ou sûrement grâce à l'hémétophobie que je n'ai pas eu de nausées parce qu'en fait, mon cerveau, il a bloqué. Ah oui. Il a dit c'est mort.
La
en fait,
force du mental, quoi.
Ouais, c'est mort en fait. C'est pas... Parce qu'en fait, je ne me voyais tellement pas avoir des nausées. Pour moi, ça aurait été insurmontable. J'aurais pas pu surmonter cette grossesse, bah, en tout cas, ça aurait été trop compliqué pour moi de passer outre. Ah, psychologiquement, j'aurais pas pu. Et du coup, bah, là aussi, j'ai eu trop de chance. J'ai eu très peu de symptômes, j'ai eu un peu de fatigue, mais c'est tout, quoi.
Tu disais que ta famille ou tes proches avaient pu te faire ressentir que tu n'étais pas capable. Finalement, tu es presque 8 mois de grossesse, donc tu es dedans. Est-ce que tu veux bien m'en dire un peu plus sur comment est-ce que tu as senti la société autour de toi entre le moment où tu es arrivée vers ta trentaine, le moment où maintenant tu es enceinte? Comment est-ce que tu sens le regard des gens et de la société sur toi dans cette amplitude-là?
Ouais, on parle souvent qu'à la trentaine, il y a un peu un tournant où on a des envies de grossesse, en tout cas pour certaines. Je ne sais plus comment on appelle ça, je ne me rappelle plus. Moi, je l'ai eu, mais en fait, ce n'est pas un déclic qui se met dans la tête, c'est juste la société qui en parle plus. Et qui, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les articles, en fait, où en fait, on est les principales concernées à la trentaine. C'est pas, bah, moi, je ne crois pas au fait qu'à 30 ans... bim, on a un déclic dans notre tête, c'est juste qu'en fait, on en parle plus autour de nous. Le fait qu'on nous en parle, bah, ça a été réellement un facteur pour moi déclencheur sur l'envie d'avoir un enfant. Il faut être honnête, il faut être totalement honnête que si en fait, j'avais eu 10 ans de plus, bah, 10, non, 10 ans de moins, pardon, si j'avais eu 20 ans, ça n'aurait pas été un sujet, je ne serais pas enceinte aujourd'hui. J'aurais attendu, alors j'aurais pu encore attendre, hein, j'ai 30 ans, j'ai encore plusieurs années, j'aurais pu même congeler mes ovocytes, j'y ai pensé... C'est juste que là, c'était d'autres facteurs aussi qui a fait que j'ai voulu un enfant à ce moment-là. Mais oui, quand on a 30 ans, bah, tous les projecteurs sont un peu sur nous. En tout cas, on nous pose la question. Alors, je me considère encore chanceuse. Ma famille, comme ils ne m'imaginaient pas, c'est pas qu'ils ne me sentaient pas capable, mais plutôt qu'ils ne m'imaginaient pas en tant que mère, c'était pas un sujet dans ma famille. C'était pas un sujet dans ma famille. Et c'est plus... un petit peu au travail, un petit peu dans mes amis, même si j'ai pas eu trop de pression, mais c'est surtout dans les magazines, etc. Et je comprends que ça soit compliqué à gérer, parce que bah, en fait, des fois, on a envie qu'on nous foute la paix. Et puis moi, il y a encore peut-être 1 an et demi, 2 ans, il y a des jours, je disais, ouais, pourquoi pas. Il y a des jours, on disait, oh non, la flemme. C'était bah, changer d'avis toutes les semaines. Puis on se sent jamais... Bah, et puis si, surtout, si on attend... Le jour où on est prêt, on n'est jamais prêt, qu'on se le dise. Moi, je ne suis toujours pas prête à 8 mois, je ne suis toujours pas prête à avoir un enfant. Il y a des jours où je me dis, est-ce que je n'ai pas fait une connerie? Et puis, il y a des jours où je me dis, mais non, en fait, c'est une évidence.
Et comment tu gères ces jours-là où tu dis, oh la vache, ouais. J'ai fait une connerie?
En fait, je vis dans une société où je suis très bien informée, je lis pas mal de choses. Je suis très bien entourée, j'ai des personnes autour de moi qui me partagent leur expérience, qui fait que j'ai pas de culpabiliser, bah je n'ai pas à culpabiliser à dire ça ou à penser ça, parce qu'en fait je sais que je suis pas toute seule, mais je sais qu'il y a plein de gens qui s'y disent mais oh là là, je suis peut-être toute seule à penser ça. Non, en fait c'est normal qu'on doute, on sait pas ce qu'on va vivre. Clairement c'est un bouleversement. Une espèce d'énorme tempête qui va nous arriver en pleine gueule à partir du jour de l'accouchement. Et on ne peut pas être prêt. Et c'est normal d'avoir peur, de flipper et de se dire « Mais est-ce que en fait, je vais être capable ?» Parce qu'en fait, là, c'est définitif. On ne peut pas changer d'avis et dire « Ouais, en fait, c'est bien 2 jours, mais finalement, non, je le rends. » Ben non, ce n'est pas possible. Donc, c'est normal et c'est légitime. Et dire que non, on n'a pas peur, qu'une femme enceinte n'a pas peur et n'a pas d'inquiétude, bah moi j'aimerais bien la rencontrer, cette femme, parce que vraiment moi je connais pas de femme qui est sereine sur la suite. Personne, bah pour moi personne est sereine sur la suite. On sait pas ce qui va nous arriver avec tout ce qu'on voit. On sait que c'est difficile. Il y a à l'époque de nos parents, là peut-être qu'elles étaient sereines, parce qu'en fait on ne savait pas concrètement ce qui se passait. Tout le monde disait avoir des enfants c'est génial, c'est inné, tout va forcément bien. Maintenant, on sait que c'est des fois la galère. Que oui, t'as des très bons moments, c'est certain. Sinon, on ferait pas d'enfants. Mais il y a des moments, c'est la galère, c'est certain. Et que c'est pas facile, et qu'on a la dépression du postpartum, et que dans... Je crois que c'est un tiers des couples qui se séparent la première année. Donc là aussi, on peut se dire, bah oui, mais mon couple...
Ouais, c'est ça. Pourquoi... Moi, c'est une de mes questions, c'est... Pourquoi prendre le risque d'abîmer mon couple pour un petit machin qui n'existe pas encore?
Ouais.
Tu vois, c'est, pour moi, c'est vraiment là où se place le poids le plus fort dans la décision de faire un enfant, c'est de se dire « Waouh, la prise de risque !»
Oui, et on y a pensé, on y a discuté, et au tout début, je disais « Pourquoi je prendrais le risque, en fait ? On est trop bien là à trois. Pourquoi je prendrais le risque de rajouter une quatrième personne que je ne connais pas ?» Clairement, je ne connais pas, alors que j'ai quand même une chance sur trois de briser mon couple.
Et alors, pourquoi ? Qu'est-ce qui a fait balancer vers le « Allez, vas-y, on tente ?»
Je ne sais pas trop. L'envie de créer quelque chose en commun. Et les autres éléments, la peur de regretter. Quand je vois mon conjoint avec sa propre fille et la relation qu'ils ont, je me dis, moi aussi, j'ai envie d'avoir la même chose, en fait. C'est aussi un peu ça, où ils ont, même si je suis proche de cette petite fille, je ne serai jamais aussi proche qu'elle et son père. Et d'avoir créé ça, que mon conjoint a créé et éduqué cette petite fille et transmet des choses tous les jours à cette petite fille, moi aussi j'ai envie de faire la même chose, que je peux le faire avec elle. Mais là, c'est avec mon propre enfant qui a mes gènes, qui a une partie de mon ADN et qui a une partie de l'ADN de la personne que j'aime le plus au monde.
Ça a une importance pour toi, ça, l'aspect biologique, entre guillemets, de cet enfant sera un mélange, une fusion de nos gènes ?
C'est une très bonne question. Je pense que quand on n'a pas la possibilité d'avoir de porter la vie, on a plein de possibilités, dont l'adoption, où là, on n'a pas le gène. On n'a pas les gènes et de toute façon, je suis convaincue qu'à l'accouchement ou à la rencontre lors d'une adoption, c'est une rencontre. C'est-à-dire qu'on apprend à connaître mon enfant. J'ai bien conscience que quand je vais le voir, je ne vais pas tout savoir de lui, que je vais devoir apprendre à le connaître. Comme d'ailleurs, j'ai fait avec la fille de mon conjoint, où j'ai appris à la connaître et j'ai créé comme une pelote de laine une relation avec cette personne-là. Mais pour être tout à fait honnête, entre la fille de mon conjoint, même si je l'aime de tout mon cœur, et le futur bébé, il y aura forcément un écart. Est-ce que c'est génétique ? Est-ce que c'est parce que je les porte ? Je pense que c'est pas l'ADN et le côté biologique, mais parce que je l'ai voulu. Parce qu'en soi, la fille de mon conjoint, je l'ai pas voulu. C'est pas moi qui ai décidé d'avoir cet enfant. Je l'ai plutôt accepté. J'ai porté, du coup là je porte cet enfant en moi et je l'ai attendu pendant 9 mois, j'ai pris soin de moi, j'ai fait des cours de préparation à l'accouchement pendant 9 mois pour cet enfant. Après je pense pas que c'est biologique, mais il y aura forcément un écart certain. Mais après c'est pas forcément parce que c'est mon ADN, c'est parce qu'il y a eu toute une préparation, que je l'ai voulu, que je sais qu'il n'y a pas une autre maman, alors que bah, forcément la fille de mon conjoint, je sais que bah, du coup il y a deux parents plus moi. Donc, elle peut se reposer sur sa maman. Donc voilà, il y a une part... C'est pas vraiment biologique, mais je sais que c'est mon enfant, vraiment la chair de ma chair, en tout cas.
Tout à l'heure, tu parlais de ton compagnon et tu disais que la manière dont il est père avec sa fille t'a fait, en tout cas de ce que j'en comprends, te dire « Ok, avec lui, ça peut être stylé ». Je pense que ça peut être un enjeu pour des femmes 6-7 de se dire « Bon, avoir un enfant, pourquoi pas ?» Il y a certains hommes qui sont peut-être pas capables d'être père ou qui vont se dire « Ouais, moi, je vais assurer de ouf. » Et qui, finalement, sur le moment, vont se dire « Oh, mon Dieu, il me manque 5 ans de maturité et 2 ans de thérapie pour être capable de... »
Ouais, en effet. Alors, on peut faire un enfant sans un père ou sans un coparent. Je suis convaincue qu'on peut tout à fait élever un enfant seul. Ça doit être très compliqué, à mon avis, mais surtout au niveau de la charge mentale. Mais au niveau de l'amour, je n'ai pas du tout de doute là-dessus. Et en effet, je suis sortie avec plusieurs personnes. Et à chaque fois, je ne me suis pas spécialement projetée avec ces personnes-là pour qu'ils soient un bon père. Moi, j'ai eu un père correct, je dirais. Correct, mais pas incroyable, qui n'a pas été extrêmement présent, mais qui n'a pas non plus été horrible non plus. Et j'avais pas du tout envie de reproduire les mêmes schémas. Et c'est vrai que c'est de la chance. C'est que moi, du coup, mon conjoint, je l'ai déjà vu quand je l'ai rencontré, il était déjà père.
Parce que justement, pareil, je m'auto-spoil parce que tu en as parlé la semaine dernière, mais votre premier date, il y a sa fille qui est là.
Ouais, exactement. On s'est rencontrés sur Facebook et en effet, il a été très honnête dès le début en disant qu'il était père d'une petite fille et que le premier date, ça tombait sur sa semaine de garde. Il m'a demandé si ça me dérangeait pas. Et en effet, le premier date, sa fille était là.
Donc déjà, cette,
ça pose le cadre.
Cette petite fille voilà. Existait dans, oui. dans l'aventure qui pouvait commencer et qui a continué maintenant oui. Dans votre histoire d'amour.
Oui. Exactement. Et comment il me l'a présenté, il n'y avait pas de « oui, elle peut ne pas être là ». Non, c'est moi et ma fille. Tu veux ou tu veux pas ?
Ce qui était très honnête du coup.
Ah, très honnête. Très clair. Ah oui, et j'aurais pu refuser et ça n'aurait pas posé de problème. Depuis le début, c'était très clair. Je ne me voyais pas, bien évidemment, refuser.
Et puis en même temps, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Au début, tu lui as bien dit « je ne ferai rien ».
Oui.
Tu vois ?
Oui.
Tu as posé ton cadre tout de suite.
Tout à fait.
Donc je trouve ça assez, dans ce que tu me racontes, je trouve ça sain, en fait, ce truc de « Ok, une histoire d'amour se tisse, tu as une fille, je ne vais pas prendre parti pour l'instant. » Et puis finalement, la rencontre avec cette petite fille se fait. Donc du coup, tu acceptes et tu es consentante à. Je trouve qu'il y a des étapes très saines dans tout ce que tu racontes.
Ouais, je pense avoir toujours eu un œil pour choisir mes mecs. C'est l'éducation de ma mère qui ressort, de malheureusement pas trop faire confiance aux hommes et de toujours rester lucide. Et en effet, la première condition avec Julien, c'était très bien, j'accepte ta fille, par contre, je ne veux que tu ne m'obliges en rien. Je ne suis pas ta babysitter. Donc, au début, il faisait vraiment tout. Hein. Vraiment, tout. On habitait ensemble. Alors, ce qui paraît logique en soi, c'est le père de sa fille. Mais il faisait tout. Mais c'est-à-dire, changer une couche, je n'y touchais pas. Et je pouvais passer ma soirée à les regarder tous les deux, faire des choses, jouer ensemble. Et moi, je les regardais et je faisais strictement rien. Et il ne me l'a jamais reproché. Et bien sûr, c'était logique. Mais du coup, ça m'a permis de pouvoir l'observer en tant que père et de me dire « Ah, mais c'est ça que je veux. » En fait, il prend son rôle à cœur et son rôle, pas de père, mais de coparent, vraiment, où il est investi dans les tâches. La nuit, comme il n'y avait pas la maman et que moi, j'avais l'intention de rien faire, c'est lui qui se réveille la nuit, c'est lui qui fait à manger, c'est lui qui change de couche, c'est lui qui console sa fille, c'est lui qui joue avec elle, et c'est très bien comme ça, et en plus, il est épanoui là-dedans. Genre vraiment, il adore ça. Et même si moi, au fur et à mesure, je me suis investie dans ce binôme...
À ton rythme.
À mon rythme, ça n'a pas changé. Ça veut dire qu'il est toujours autant investi, il m'oblige en rien, il a toujours cette sensibilité.
Il ne s'est pas déchargé sur toi.
Pas du tout. C'est moi qui me rajoute et qui lui dis « Ah, c'est bon, ne change pas la couche, c'est moi qui vais la faire. » C'est juste ça, pour lui laisser plus de temps pour faire autre chose.
Et puis toi, du coup, est-ce que tu prends plaisir avec cette petite fille à t'investir à ton endroit de belle-mère ?
En fait, il y a des moments où... des fois, j'avais pas envie de jouer avec elle et je culpabilisais en disant mais c'est horrible, j'ai pas envie de jouer avec elle. En fait, j'ai envie d'être posée sur mon canapé et de regarder une émission de télé-réalité ou de faire autre chose. Et du coup, après, j'ai fait un juste équilibre entre il faut que je fasse des choses, je vais pas me forcer à faire des choses alors que j'ai pas envie de faire parce qu'en fait, ça va se voir. Et je vais faire des choses qui, moi... Parce qu'en fait, je me basais sur ce que lui faisait avec sa fille. Lui, il adore jouer avec sa fille. Moi, jouer, c'est pas mon truc. Par contre, lui transmettre autre chose. Par exemple, j'adore chanter. Je chante très mal, mais j'adore chanter, j'adore danser, j'adore faire le clown, faire des spectacles, faire du théâtre, faire de la peinture, du dessin. Ce que Julien ne fait pas trop, lui, il est plus à jouer avec les Barbie, les Playmobil, voilà, différents jeux. Et ben, en fait, j'ai du coup choisi ce que j'aimais bien et ce que j'avais envie de lui transmettre et je lui ai transmis. Alors qu'au début, je dis, ouais, j'ai pas envie de jouer en fait aux Barbie. Genre, ça me fait.
Je trouve ça inspirant ce que tu dis parce que moi, par exemple, moi non plus, je jouais l'imagination et tout, mais même enfant, bah, je me souviens de ma mère qui me disait, mais jouer avec ton imagination, l'enfer. Terrible. Je voyais juste des jouets devant moi en mode genre, bon, bah. et du coup, c'est un truc où, avec les enfants, où, je joue comme ça, mais je trouve ça rassurant que tu dises ça, ce truc de, mais injecte-toi ce que tu aimes, et puis l'enfant, tu vas l'adapter à l'enfant, et puis l'enfant, il va s'adapter à toi, et en fait, c'est une relation, quoi.
C'est ça. Après, des fois, t'es un peu obligé de jouer pour lancer et pour qu'ensuite il joue en autonomie. Mais oui, en fait, vaut mieux pas faire semblant. Si bah, alors, il y a des limites. Si t'as vraiment envie de rien faire avec ton enfant...
Oui, bon.
Voilà. Mais oui, il faut que tu sois toi-même et que tu transmettes des choses qui, toi, te donnent envie, je pense. Hein, et puis, bah, des fois, elle joue toute seule et puis c'est très bien comme ça. Et puis, j'interviens que quelques secondes parce qu'elle me pose des questions et puis c'est tout.
Tu es bientôt à 8 mois de grossesse, donc l'accouchement se rapproche. Comment est-ce que tu te projettes dans cet accouchement ?
C'est plutôt variable. Il y a des jours où en fait, je suis pressée et j'ai hâte de rencontrer ce bébé. Et des jours où je suis flippée, où j'ai envie qu'il reste...
toute la vie.
Ah ouais, et qu'on n'en parle plus. Ou qu'on me le mette dans les bras et qu'on me dise « c'est bon !» Et il s'est rien passé, voilà. Et mon corps n'a pas changé et je n'ai pas souffert. Après, je me dis, j'en parlais encore hier soir, je me dis que de toute façon, j'ai pas le choix d'y passer. Qu'il faut pas trop s'imaginer. Bah, je me rends compte que plus on s'imagine l'accouchement idéal, plus on est déçu. Parce qu'en fait, il y a plein de femmes qui s'imaginent l'accouchement idéal par voie basse, sans péridurale, avec très peu de douleur, où on arrive à gérer la douleur. Parce qu'on a des cours de préparation à l'accouchement qui nous préparent quand même un minimum. Mais qu'on se dise, même si on nous prépare pendant des heures, je pense qu'on n'est jamais prêt pour vivre ce moment. Qui va être long et sûrement douloureux. Donc j'essaye de me préparer en rien et de me préparer en tout, en disant bah il peut se passer plein de choses et je ferai ce que je peux. En fait, je me dis le plus important c'est que j'aille bien et que le bébé aille bien. Après, ce qui se passe pendant ces heures, je ferai ce que je peux et ce que mon corps peut et ce que mon bébé peut. Si c'est césarienne, bah c'est césarienne, c'est pas très grave, ça reste un accouchement comme un autre. J'ai d'ailleurs un collègue qui m'expliquait que sa femme, elle a eu une grossesse tout à fait parfaite, tout s'est très bien passé. Et elle a fini par une césarienne. Et elle a tellement mal vécu, parce qu'en fait, elle a eu l'impression de ne pas avoir accouché. Et il m'a même dit, oui, ma femme n'a pas accouché. Et j'ai trouvé ça tellement choquant et triste pour cette personne-là. Parce que, bah, en fait, elle a quand même porté la vie pendant 9 mois. Qu'une césarienne, ça reste un accouchement, je pense. Je crois qu'on avait regardé...
On a regardé la semaine dernière, et dans la définition du dictionnaire, un accouchement, c'est... j'allais être un peu barbare. C'est sortir un bébé du ventre de quelqu'un qui l'a porté.
Exactement.
Donc, une césarienne, ça coche la case.
Exactement. Et je trouve ça triste, en fait, que cette personne-là, elle considère qu'elle n'a pas accouché ou qu'elle n'a pas mené à bien... grossesse. juste parce qu'en fait, elle a eu une césarienne à la fin.
Alors que, en tout cas, dans mon référentiel, mener à bien une grossesse, c'est la personne qui a porté et le bébé sont en bonne santé,
oui,
sont OK.
Exactement.
Donc, vraiment, l'objectif principal, j'ai l'impression que c'est ça.
C'est ça, exactement. Mais parce que je pense que cette personne-là, elle s'est tellement... Bah, je ne sais pas, je ne me permettrai pas de juger, mais je pense que cette personne-là, elle s'est tellement imaginée un accouchement idéal, sauf qu'en fait, ça ne se passe jamais comme prévu. Tout le monde nous le dit pendant toute la grossesse. Tout le monde nous dit que l'accouchement, ça ne se passera jamais tel qu'on l'a imaginé. Puis chacun donne son petit avis en disant « Oui, il ne faut pas, demander une épisiotomie. » Donc, c'est une déchirure volontaire des professionnels de santé. Je n'ai pas d'avis sur tout ça, mais... Ouais, en fait, je préfère m'attendre à rien et en même temps m'attendre à tout et me laisser porter et faire confiance aux professionnels de santé tout en étant en quand même un esprit et mon conjoint aussi qui est briefé. Ou s'il y a un truc qu'on sent pas qui se passe, qu'on soit capable de le dire et dire « Attendez, là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Je suis dans mon droit de savoir, on parle de mon corps quand même parce qu'il y a des excès ou voilà, des professionnels de santé qui ne respectent pas forcément les lois.
Est-ce que tu as un projet de grossesse qui donne un cadre à tout ça?
Alors, au tout début...
On peut résumer peut-être ce que c'est un projet de grossesse.
Ouais, c'est une lettre, un papier, où les deux parents expliquent, entre guillemets, l'accouchement idéal, ce qu'on souhaite et qu'on ne souhaite pas, qui est transmis ensuite à la clinique ou à l'hôpital. Et c'est l'un des éléments que les professionnels de santé vont lire et vont tenter de respecter.
C'est un objectif.
Voilà. C'est le projet. Voilà comment j'imagine mon accouchement idéal.
Et au milieu de tout ça, il se passera bien ce qui se passera. Et c'est ce que tu as dit depuis tout à l'heure. Eh bien, on fait avec ce qui se passe.
Exactement.
L'objectif que la santé de tout le monde soit la meilleure.
Ouais. Alors après, on peut clairement mettre des choses qu'on ne veut surtout pas. Par exemple, je ne veux pas d'épisiotomie. Et là, ils sont pas dans l'obligation de respecter. Bah, je sais pas trop s'ils sont un peu dans l'obligation de respecter. Mais peut-être que dans certains cas, ils auront pas le choix. Ils vont vous dire, bah là, vous avez marqué ça. Mais là, on n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'on fait?
Oui, peut-être que ça ouvrira le dialogue du coup, plutôt que de faire un truc qui aurait pu être questionné. Ben là, puisque c'est dans le projet de grossesse, alors va du coup déclencher une discussion sur le moment de dire bon, ben vous l'avez noté.
Exactement.
Ce qui n'est pas si mal.
Ouais, ce qui n'est pas si mal.
De communication.
Ouais, tout à fait. Alors après, il faut se dire qu'à l'accouchement, on peut peut-être être à des moments où en fait,
le temps de réfléchir.
Oui, alors je ne sais pas. Hein. Comme je ne l'ai pas vécu, je ne peux pas savoir. Mais nous, au début, on voulait faire un projet de naissance et finalement, on n'en a pas fait.
Ah ouais, ok, parce que.
Parce qu'on nous a dit, oui, bah, c'est très bien les projets de naissance, mais ils regardent, mais en fait, on ne peut jamais savoir ce qui peut arriver. C'est bien de mettre « je ne veux pas d'épisio », mais en fait, si c'est nécessaire, normalement, quand tu es dans une bonne clinique avec des bons professionnels de santé, on te posera la question. Tu te dis, bon, bah, là, moi, je vous invite vivement à faire une épisiotomie et qu'on fasse une épisiotomie. C'est dans la loi, hein, ils sont normalement obligés à nous demander oui ou non. Et on considère que s'ils ont des choses à faire, par exemple les forceps, les ventouses, ils nous préviennent et que s'ils ont à le faire, c'est qu'ils ont vraiment besoin de le faire. Et aussi le projet de naissance, on s'est aussi dit que bah, du coup, ça mettait sur papier notre accouchement idéal et que ça pouvait provoquer ensuite de la déception.
Ah.
La fameuse déception que beaucoup de femmes ont quand ils imaginent leur projet de naissance ou quand ils imaginent leur accouchement idéal. Après, des fois, je me dis, oh, peut-être que je pourrais... En soi, le projet de naissance, soit tu peux le transmettre avant, soit le jour de l'accouchement, tu donnes la feuille. En fait, avec des points importants, je veux ça, je veux ça. Mais en fait, j'en sais rien de ce que je veux. Moi, à la base, je voulais juste une feuille où je souhaite juste un accouchement, où je suis en bonne santé, que mon bébé est en bonne santé, et je veux des professionnels de santé bienveillants, respectueux et à l'écoute. C'était les trois mots que je voulais mettre. Donc je me laisse le choix toujours de faire cette feuille et que du coup arriver à la clinique et transmettre ça. Mais pour moi c'est le plus important, je me dis, si à partir du moment où les professionnels de santé sont à l'écoute, bienveillants et respectueux, pour moi c'est ok. Pour moi je me dis, bah s'il y a une épisio, bah ouais, bah oui, faites-la. S'il y a besoin d'utiliser les forceps, bah oui. Bah s'il y a besoin de faire une césarienne, bah oui, faites-la. Si vous considérez médicalement que c'est nécessaire, bah très bien. Mais des fois, je change d'avis. Hein. Des fois, je me dis, ah, je devrais peut-être faire un... Mais en fait...
Ok, ça va être ma dernière question. Si, là, dans ton expérience actuelle, tu avais un conseil à donner à des personnes qui se demanderaient, qui seraient dans ce moment-là de vie, où est-ce que je fais des enfants, est-ce que je fais pas d'enfants, pourquoi j'en fais, etc. Quel serait ton conseil ou ton retour d'expérience ?
Je dirais, premièrement, qu'il faut pas se forcer si on souhaite pas d'enfants, mais qu'on ressent la pression... de la pression sociétale, familiale ou autre. Je sais que c'est difficile, mais il ne faut pas se forcer. Après, il faut savoir pourquoi on ne souhaite pas d'enfant. Est-ce que c'est une conviction profonde ? Est-ce que c'est une conviction écologique ou autre ? Ou est-ce que on ne veut pas d'enfant parce qu'on ne se sent pas capable ? Là, il faut essayer de demander pourquoi on ne se sent pas capable, parce qu'en fait... moi, j'ai conscience que je ne serai pas une mère parfaite. Je serai juste une mère qui fera de son mieux pour son enfant. On a tous des problèmes avec nos parents, des traumatismes avec nos parents. On considère tous nos parents, en tout cas, qu'ils auraient pu faire mieux avec nous. C'est ce que je me dis. Je me dis, mon enfant, peut-être qu'il me reprochera des choses, mais je lui répondrai que j'ai fait de mon mieux. En fonction de ce qu'il y avait autour de moi, de mon entourage, de mes traumatismes, des événements que j'ai vécus, de comment lui, il était à ce moment-là. Et puis le fait de la raison où si, par exemple, la personne ne se sent pas prête, ça, je trouve que c'est un peu une fausse excuse parce qu'en fait, on ne se sent jamais prêt. Moi, je ne me sens toujours pas prête à 8 mois, comme je disais. Donc le fait de ne pas se sentir prêt...
Oui, toi, c'était plutôt un contexte qui a fait que tu étais prête. Alors, tu n'es pas prête, mais le contexte a fait que tu t'es dit « Allez, déclenchons ». Essayons.
Oui, exactement. Je pense que personne ne se sent totalement prêt parce qu'on ne sait pas à quoi ce qui va nous arriver.
Je trouve ça antilogique parce que tu serais prêt à un truc que tu ne connais pas.
Oui, exactement. Ou la personne qui dit « mais moi, je me sens prête ». Bah, très bien, mais je pense que tu vas tomber de haut.
Tu vas avoir des surprises.
Ouais, voilà. je pense aussi. T'as beau garder tes petits neveux et nièces pendant les vacances, tu vois. C'est pas ça, la parentalité. C'est toute la vie. Toute la vie, tu gardes tes neveux et nièces. Et en plus, c'est tes propres enfants, donc ils comptent sur toi. Tu es les seuls responsables de ces enfants. Donc voilà, ne pas se forcer de comprendre pourquoi on ne souhaite pas d'enfants. Et puis en fonction des raisons, voir si en effet, ça... Ouais, est-ce que vraiment... En fait, parce que c'est pas une fin en soi, finalement, d'avoir des enfants. Moi, je suis convaincue que c'est pas mon objectif dans la vie. D'avoir un enfant, c'est très bien, mais j'espère pas que c'est mon objectif. J'ai l'intention de faire plein d'autres choses, que ce soit avec mon enfant ou sans mon enfant dans le futur. Bon, mon enfant sera, à mon avis, beaucoup à côté de moi les premières années, mais j'ai pas l'intention de vivre à travers mon propre enfant. On est deux entités différentes. Lui aura des objectifs de vie, je vais l'accompagner dans ses objectifs de vie pour qu'il grandisse, qu'il ait une bonne éducation, qu'il puisse s'épanouir dans cette vie. Moi aussi, on sera un peu un binôme les premières années, mais après, je dis ça, mais j'en sais rien.
Écoute, on pourra refaire un épisode pour en discuter et voir si tu es toujours dans ce truc-là ou si ça a évolué.
Ouais, exactement. Voilà, je pense que j'ai tout dit.
Vous venez d'écouter Créature, un podcast produit, enregistré et monté par
Milan Rousseau.
Retrouvez d'autres récits témoignant d'histoires de créatures sur toutes vos applications de podcast. À bientôt.